Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman d'Yves Tanré. Il n'échappera à personne que la voix que vous entendez n'est pas celle inimitable d'Yves Tanré, le créateur et l'animateur de cette émission qui fête cette année ses 10 ans d'existence, mais celle de son fidèle chroniqueur Frédéric Gournay, auteur de Métaphysique du rock. Yves, on sait que tu nous écoutes, sache qu'on pense à toi très fort et qu'on espère te revoir très vite. Dans ce numéro de La vie est un roman, nous recevons François Moreau-Martinez, journaliste aux Inrock et désormais écrivain, qui vient de sortir Le meilleur café d'Amérique aux éditions du Gospel. Bonjour François.
Bonjour Fred.
Alors, vous vous souvenez de votre premier choc musical enfant ?
Je pense que le premier choc musical enfant, à mon avis, ça devait être Jean-Michel Jarre. Quand j'étais petit, je pense que c'était Oxygène ou un truc comme ça.
Donc pas du rock du tout.
Pas du rock. Ouais, enfant, c'était ça. Voilà. Après, je pense que si on part un peu plus loin, je pense que j'étais tombé sur ma mère. Elle avait le White Album, le double blanc des Beatles. Voilà. Un peu des histoires classiques. Hein. Et je pense que donc avant mes 10 ans, je crois qu'en fait j'ai été choqué par Révolution, mais je crois d'ailleurs c'est même pas cette version là parce que je suis pas sûr que la version très rock elle est sur l'album, mais il y a eu Revelation 9 et là en fait c'était très bizarre, enfin il y a eu un truc de collage de machin, et vraiment j'ai été épouvanté par ce morceau, je m'en rappelle, mais ça m'a quand même donné envie d'y aller, parce que quand on est épouvanté par les choses, je pense qu'on a envie d'aller de se faire peur un petit peu. Et ça avait rien à voir avec le reste des Beatles. Et c'est comme ça que j'ai écouté les Beatles. Donc je pense qu'il y a eu le premier choc musical, c'est-à-dire le truc dont je me rappelle que ça m'a dit « Oh, c'est génial, c'est le futur ». Je pense que c'était Jean-Michel Jarre et j'étais gamin. J'ai jamais écouté Jean-Michel Jarre vraiment par ailleurs. Hein, mais je veux dire, c'était en tout cas, si j'essaie d'être le plus fidèle à ce qui s'est passé. Et je pense qu'ensuite, ça devait être les Beatles, parce que ma mère, elle avait ces cassettes-là et qu'on écoutait ça. Et je pense que ça m'avait attrapé avec un truc comme Revolution 9.
Est-ce que vous vous souvenez du premier livre qui vous a marqué, ado ou jeune adulte ?
Ado, je pense que ça devait être... je pense que c'était un Stephen King. Je crois que c'est Le Fléau. Je m'étais fait les tomes des Fléaux. Et je pense que c'est ça qui m'avait frappé, quoi. C'était la littérature américaine, hein, du coup. Et ouais, en fait, c'est un truc dont on parlait. Puis en plus, il y avait une rumeur comme quoi il y avait aussi un téléfilm en plusieurs parties. Je dis rumeur parce qu'à l'époque, c'était difficile de savoir, véritablement, de chercher. Je ne me rappelle plus comment on cherchait, en fait, à l'époque.
Oui, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de réseau.
C'est ça. Donc je ne sais plus exactement. Et cette rumeur était vraie. Il y avait vraiment un truc, donc un téléfilm. Et on se l'était passé. Un copain l'avait trouvé en cassette. Donc, on s'était passé les trucs. Et en fait, on lisait le livre avec mon pote qui s'appelait Arnaud, je crois.
Et comment vous avez découvert la presse musicale ?
La presse musicale, j'ai découverte dans la chambre du grand frère d'un pote, qui avait chez lui des numéros, qui avait plein de numéros de la presse, etc. Et c'était notamment il avait notamment les Inrock. Et je me rappelle, alors là, on est un peu plus tard, hein, mais je pense que j'ai 10 ans à peu près, un truc comme ça. Et il doit y avoir un vieux numéro des Inrock. Enfin, à l'époque, il n'était pas si vieux. Hein, et c'était c'était la couve d'Oasis où on voyait les deux frères avec le fond bleu, etc. Et voilà. Et puis là, je pense qu'en fait, c'était le truc. Ça, c'est les Anglais là que j'adore. Voilà. Et en fait, là, j'ai découvert un truc, c'est que j'ai commencé à lire et j'ai adoré, en fait, lire le truc, alors que je ne pouvais pas écouter forcément tout ce qu'il y avait. Parce qu'encore une fois, en fait, lui, il avait des disques, il avait des trucs dans tous les sens, mais ce n'était pas forcément les disques qui étaient chroniqués dans le journal. Mais par contre, j'ai pris du plaisir à lire, avant même. Et donc, en fait, ça m'arrivait. Après ça, j'ai acheté la presse de temps en temps. Mais après, je n'avais pas trop une idée de ce que ça voulait dire, la périodicité, toutes ces choses et tout. Donc, je tombais un peu par hasard. Je fais « Ah, il y a un nouveau numéro !» Et c'est là que j'ai commencé à acheter ça. Donc, j'ai acheté pas mal de trucs comme ça. Je me rappelle, il y avait un journal à l'époque qui s'appelait XL, je crois aussi, un truc comme ça. Donc là, c'était un peu plus pop, pop culture et tout. Il y avait, à un moment donné, je me rappelle d'un truc où il y avait Iggy Pop, mais Britney Spears aussi. Enfin, des trucs un peu tout mélangés. Et ça, en fait, c'était assez cool. Et je lisais, et puis forcément, j'écoutais pas forcément tout de suite les disques. Ça me donnait envie d'aller en acheter, mais en même temps, quand t'habites en province et loin des centres-villes, bah, c'est difficile de trouver des disques, mine de rien. Et donc voilà, donc je crois que ça s'est fait un peu comme ça. Et après, j'ai découvert la presse qui était vraiment un lieu, un refuge, quoi. J'y allais tout le temps. C'est-à-dire, comme en plus, c'était sur le chemin du retour de l'école. Bah, en fait, je m'y arrêtais et j'ai même fait mon stage de troisième là-bas, du coup, voilà, à la presse. Voilà. Et voilà.
Et c'est venu quand cette envie d'écrire sur la musique ?
L'envie d'écrire sur la musique, ça, on dirait du storytelling, mais c'est pas du tout du storytelling, c'est vraiment comme ça que c'est passé, en tout cas, c'est comme ça que c'est encore neuf dans ma tête. Je pense que ça, c'est au collège, il y a le premier album des Strokes qui sort. Et là on est un peu à un moment donné où en fait avant ça, même si j'écoutais Oasis, des choses comme ça, avant les Strokes en fait et tout ça, j'écoutais les trucs des vieux quoi, des anciens quoi, enfin j'écoutais les trucs qui sont encore aujourd'hui au patrimoine et qui tournent encore aujourd'hui parce que McCartney joue encore, les Stones jouent encore, ce qui est très étrange à dire, mais voilà,
ils ont plus de 80 ans,
ils ont plus de 80 ans exactement, et moi j'étais ado, et donc il y a l'album des Strokes qui sort, et puis là il y a ce sentiment que en fait c'est à mon tour, en fait c'est le tour de ma génération, en fait, de prendre un peu la parole et de dire bah voilà, là il y a du nouveau rock quoi, en fait je me dis un truc dans le genre quoi. Et je me rappelle des réflexes que les copains ont eu à l'époque, il y a eu des réflexes assez intéressants, c'est à dire que, et je pense que très révélateurs, qui était qu'il y en avait qui voulaient aller en concert le voir les Strokes. Il y en avait d'autres qui voulaient monter un groupe. Et moi, en fait, j'ai dit « Ah non, mais moi, les gars, j'ai envie d'aller à New York et j'ai envie de raconter l'histoire du groupe. » Voilà. Et j'avais pas du tout envie de faire de la musique. Enfin, moi, je n'ai jamais fait de musique de ma vie. Enfin, ça m'intéressait absolument pas de faire de la musique. Et je dis pas que j'ai pas gratouillé une guitare un jour dans ma vie, hein, mais je veux dire, ça n'a jamais été une ambition, ça n'a jamais été prioritaire, ça n'a jamais été une envie irrépressible comme la plupart des musiciens ont pu avoir.
Donc ça, vous êtes maintenant journaliste aux Un Rock, donc vous êtes rentré dans le journal que vous avez feuilleté à 10 ans, vous êtes même devenu rédacteur en chef, donc vous avez grimpé les échelons comme on dit, là vous venez aujourd'hui nous parler d'un livre, alors c'est complètement différent, c'est un autre rapport à l'écriture, parce que là on pourrait dire que c'est un travail littéraire. D'où c'est venu cette nécessité ou ce désir de ce livre-là, le meilleur café d'Amérique?
Alors en fait, j'ai toujours écrit pour moi, dans mon coin, j'avais des petits carnets où j'écrivais des histoires qui avaient ni queue ni tête ou qui avaient l'apparence d'être une histoire qui avait une tête et une queue, mais pas du tout au final. Et c'est vrai que moi, mine de rien, c'est le deuxième bouquin, parce qu'il y a 10 ans, j'avais sorti un petit roman qui s'appelait L'Alpine. Voilà, c'était un truc, vraiment, c'était de la série B absolue. Où il y avait Sun Ra qui revenait sur Terre pour sauver le monde, enfin des trucs qui étaient un peu absurdes et très science-fiction, pulp quoi. Là, c'était tout à fait autre chose, c'est que là, je ressentais le besoin, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait ce truc où moi j'ai toujours aimé le journalisme littéraire quoi, le journalisme à l'américaine. J'ai beaucoup lu John Didion, Tom Wolfe. Hunter Thompson dans les moments les plus extrêmes, etc. Enfin, c'est un peu les...
Lester Banks aussi.
Lester Banks à fond, bah ouais, c'est ça en fait. C'est-à-dire que tous ces mecs-là, en fait, c'est des gars que j'ai lus très tôt, quoi. Dès que j'ai commencé à diguer sur ce que ça voulait dire comme ça, que j'ai voulu... tous ces mecs, je les ai lus. Les mecs et femmes, notamment, parce qu'il y a aussi John Didion, mais pas que. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait... ils avaient une ambition, il y avait cette ambition littéraire tout de suite, en fait. C'est-à-dire qu'en fait j'avais vraiment envie du long quoi, le format long, moi, c'était mon truc quoi, et c'est encore mon truc hein. Et en fait comment c'est venu, bah, c'est-à-dire qu'en fait là je ressentais le besoin d'exprimer des choses à un moment donné. J'étais beaucoup allé aux États-Unis, notamment dans le cadre de mon travail, mais aussi pour le plaisir, mais aussi avec des amis pour traverser le grand territoire, qui est un territoire qui est, à mon avis, propice à la fuite, hein, propice à l'idée de se perdre. Moi, j'aimais bien l'idée de me perdre un peu comme ça, d'être tout le temps en mouvement et tout ça. Mais il y a eu un moment donné dans ma vie où j'ai eu une sorte de choc, un truc comme ça qui ressemble à un état dépressionnaire et qui m'a ramené à quelque chose de très étrange. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, j'ai eu des attaques de panique très fortes en Amérique. C'est-à-dire que vraiment comme si j'étais... Comme si je marchais dans une maison hantée ou comme ça. Enfin, et je sais pas, j'ai eu besoin de raconter tout ça. J'ai eu besoin de raconter en fait ce choc de un peu d'être déréalisé en fait en étant là-bas, alors que j'avais l'impression que dans l'imaginaire que j'en avais, c'était un lieu où en fait on allait s'accomplir. Voilà. Et c'est un peu tout l'inverse qui s'est fait, mais en même temps tout l'inverse pas vraiment, parce que c'est une façon de s'accomplir aussi de faire face à ce sentiment comme ça de déréalisation. Et donc j'avais besoin, je pense, de raconter tout ça, mais je pense que j'avais besoin aussi de revenir un petit peu en arrière et de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment j'ai grandi, comment en fait... Ouais, je pense qu'il y avait cette idée comme ça de trouver une question que je me posais sans cesse à une époque et que j'avais oubliée en fait. Et voilà, je pense qu'il y a un truc comme ça, je me rappelle plus pourquoi en fait je voulais partir comme ça, pourquoi je voulais écrire, pourquoi. Et je pense que c'est pour ça que j'ai voulu réécrire. Et je pense qu'il y avait des échos avec mon enfance et essayer de comprendre pourquoi tout ce que je croyais tenir pour acquis en fait n'était que du vent en fait.
Vous prévenez en introduction du livre, ce livre n'est pas un livre sur l'Amérique.
Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait
c'est plus un voyage intérieur qu'une découverte géographique ou...
ouais c'est ça, parce que en fait c'est pas un livre sur l'Amérique dans le sens où c'est pas un guide sur les meilleurs cafés d'Amérique, c'est pas un livre sur l'Amérique dans le sens où il n'est ni c'est ni le livre d'un géographe, ni le livre d'un historien, ni le livre d'un sociologue, ni le livre d'un anthropologue, ni rien de tout ça quoi. Donc en fait il a aucune prétention à dire quelque chose de l'Amérique, ce livre. C'est-à-dire que c'est pas du tout un livre qui va dire voilà, les Américains sont comme ça, qui va poser une analyse, qui va... C'est pas ça, c'est vraiment que des... c'est très impressionniste au final. Mais c'est surtout, en gros, qu'à un moment donné, l'Amérique, c'était ce territoire qui était là et qui était, l'exemple le plus récent de la naissance d'une nation, sans doute, etc., avec tout ce que ça implique de terrible et tout. Et puis c'était un endroit peut-être pour les gens qui cherchent des racines ou des choses comme ça, peut être un endroit nouveau aussi, quoi. Voilà. Mais c'était plus, c'est pas un livre sur l'Amérique dans le sens où en fait j'ai l'impression que ça parle effectivement plus de ce qui se passe en moi que de ce qui se passe réellement aux États-Unis. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est quel est l'effet, toujours ce sentiment que l'Amérique est un peu le laboratoire de ce qui va se passer ailleurs, quoi. Donc il y a quand même, c'est un peu l'Amérique, c'est un peu le présage de notre futur à tous, quoi. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais donc en fait c'était un bon endroit pour commencer à réfléchir à pourquoi je croyais que j'avais toutes ces choses que je pensais pour vraies et qui ne le sont pas et qui se défont, etc. Donc c'est plus un truc impressionniste, mais pas du tout expert sur l'Amérique.
Pourquoi écrire un livre en effet ? Savoir si l'on a conscience d'être dans le baratin ou dans la quête est une autre affaire. Donc il s'agit plutôt, vous l'avez dit, d'une vérité enfouie que vous essayez de retrouver là-bas en Amérique. Je sais par ailleurs que nous ne sommes pas la somme de nos douleurs, que l'énoncé d'une suite de points de repère culturels ne suffit pas à définir une génération et que la catharsis ne devrait jamais être la motivation centrale de l'écriture. Je sais aussi qu'on ne restitue pas l'air du temps comme on rend compte de la météo.
Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, il y a un truc quand même qui est très en vogue. C'est il y a quand même, on est quand même, je sais pas. Moi, je l'observe là. Après, j'ai pas du tout, j'ai pas fait d'historiographie de toutes ces choses là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a un truc qui fait que moi, je vois des fois, c'est con, hein, mais sur Instagram et tout, des comptes très nostalgiques des années 80, des années 90, etc. Et en fait, qui accumulent comme ça des motifs. Censé nous dire voilà, notre génération c'est ça, si t'as connu ça t'es un ancien, si machin, etc.
C'est souvent des objets, hein.
C'est souvent des objets, c'est souvent des choses auxquelles on se raccroche et tout, et je dis pas que ça a pas son petit effet, ça peut l'avoir, surtout quand si on détourne un truc. Mais ce que je veux dire c'est qu'en fait les si en fait j'ai toujours du mal avec les gens, enfin pas les gens, mais avec l'idée que la notre génération, c'est la génération de telle ou telle chose. En fait, les générations, elles sont éclatées en leur sein. Enfin, je veux dire, sinon il y aurait pas eu de guerre, il y aurait pas eu de combat dans les urnes, il y aurait pas eu de gens si différents les uns des autres et maintenant de la même génération, quoi. C'est très difficile d'avoir les contours d'une génération. Et puis surtout, les points culturels ne sont pas du tout les mêmes, finalement, au sein d'une même génération. Donc en fait, il ne suffit pas de tout ça pour dire, voilà, je suis de cette génération. Je suis la génération, de 2000. Enfin, je veux dire, il y a autant de raisons. Enfin, moi, je repense à ça parce qu'il y a... Et par exemple, il y a Loana qui est morte la semaine dernière. Moi, je me rappelle vraiment avec vraiment une force rare du premier jour où j'ai vu Love Story, que j'ai découvert dans un contexte un peu particulier, parce que j'étais enfermé dans un hôpital avec des jeunes gens suicidaires. Et en fait, je voyais ce truc et je me suis dit... Là, en fait, il y a peut-être une génération Love Story qui va naître. Et moi, ça m'a fait... J'ai eu des angoisses terribles à cette idée-là, parce que après ça, j'ai jamais pu regarder, en fait. C'est-à-dire que pour moi, j'ai vraiment... Ce qui fait qu'en fait, j'ai traversé toute cette période qui était censée être la génération... J'étais la génération télé-réalité, et en fait, je suis le plus éloigné possible de ça, parce que j'ai jamais regardé par ailleurs après, quoi.
Alors, vous méfiez beaucoup de la notion de génération, en effet, mais vous interrogez quand même de savoir qu'est-ce qu'être l'enfant de son temps.
Bah ouais, parce que là du coup c'est un autre truc, c'est qu'en fait c'est être l'enfant de son temps, c'est un peu ce truc, bah on va pouvoir se dire que étant donné qu'on a, alors peut-être qu'être l'enfant de son temps, c'est être l'enfant de tous ces antagonismes, en fait, au final c'est être comme ça, partagé au milieu de toutes ces, partagé entre toutes ces choses qui font que, en fait, t'as un enfant qui est né dans un certain contexte, dans son temps, bah en fait il a adhéré à quelque chose ou il a pas adhéré, mais c'est essayer de comprendre comment on s'en sort, en fait, pour tout le monde, en fait, comment on se sort de là et du contexte dans lequel on a grandi, du décorum, de la toile de fond, de comment les choses nous affectent ou pas. Et oui, c'est... Et je pense que ça, c'est un truc un peu au contour, un peu très flou, quoi, tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que c'est très difficile de dire qu'est-ce que c'est être un enfant de son temps, quoi. Mais tout l'enjeu du livre, c'est que j'ai pas de réponse à ça, en fait, j'ai l'impression.
Vous êtes toujours dans La vie est un roman sur Aligre FM 93.1 en présence de François Moreau-Martinez qui vient nous parler de son livre Le meilleur café d'Amérique, paru aux éditions Le Gospel. Dans votre livre, vous avez quand même le sentiment, vous révélez d'avoir le sentiment d'appartenir à une génération un peu désenchantée, presque sacrifiée. C'est pas du tout nouveau, ça, puisque Richard Hell, déjà en 77, il avait ce sentiment. Ouais. Donc c'était il y a 50 ans.
Ouais. En fait, c'est, je sais pas si, enfin, disons que c'est, en fait, chaque génération, ce sentiment-là, et ça, vous avez tout à fait raison de le souligner, parce que c'est hyper important. En fait, le punk serait jamais né, si c'était une génération qui avait pas eu ce sentiment-là. Mais en même temps, il y a quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire qu'en gros, il y a eu une grande promesse des années 60 qui n'a pas été tenue, et le punk est né 10 ans plus tard, en fait. Enfin, je veux dire. Enfin, c'est... Et moi, je trouve qu'il y a peut-être des similitudes là-dessus. Mais ça, il faut l'embrasser, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que je pense que depuis que le monde est monde, il ne cesse de s'effondrer et que finalement, il n'y a pas de... Mais c'est pas pour ça que moi, en tant que jeune gars né en 1986, bah, je dois, moi aussi, constater l'étendue de ce que j'ai sous les yeux, de comment j'ai grandi, etc. Donc je dois aussi avoir cette parole à un moment donné, quoi. Et oui, effectivement, c'est pas du tout j'ai jamais fantasmé le passé comme étant un lieu plus glorieux qu'un autre, en fait. Jamais, en fait, j'ai jamais eu ce truc en me disant je suis né à la mauvaise époque. Jamais j'ai ressenti ce genre de truc, quoi. En tout cas, je suis jamais tombé dans ce panneau. Enfin, et alors que c'est un panneau qui est quand même, enfin, tentant, quoi. On a envie de plonger un peu là-dedans parce que le passé nous parvient toujours par l'entremise d'instantanés comme ça qui sont compilés, compactés, et tout a l'air génial en fait finalement, mais il fait fi un peu de la réalité du terrain, des temps longs. Et les temps longs sont pas anecdotiques, parce que les temps longs, c'est les moments où on gamberge et où il se passe des trucs des fois sordides. Donc non, j'ai jamais fantasmé ce truc-là, donc c'est pas en opposition à eux, ils ont bien profité, pas nous, etc. Et d'autant plus qu'en plus, ce qui m'a interpellé, c'est que moi, je me rappelle, il y avait un truc, un petit bouquin que j'avais bien aimé, c'était des photos qui s'appelaient sur les hipsters, voilà quoi. En fait, en gros, c'était les parents, c'était les papas, les premiers hipsters et tout, et c'était que des photos des années fin 70, etc. Et donc là, on voyait bien qu'il y avait deux temps qui cohabitaient, quoi. Il y avait le temps du punk, seringue, clapier humide et compagnie, et il y avait aussi le temps un peu du soft rock, quoi. À un moment donné, papa en chemise en flanelle, Budweiser au bord du lac Tao, tranquillou, un barbecue, et puis en fait une sorte comme ça de jardin d'Éden, un peu relax, loin des affres de la politique et tout ça, protégé de tout, et tout ça. Donc en fait, il y a déjà des temps à l'époque qui commençaient, mais en même temps, ce qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être deux catégories de gens. Il y a ceux qui voient en fait le tragique qui est en train de se passer derrière le rideau, et les autres qui le voient pas, quoi, en fait, entre guillemets. Et moi, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir fait partie des gens qui voyaient le tragique derrière quelque chose en apparence plutôt agréable, en fait.
C'est toujours sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman, en présence de François Moreau Martinez, qui nous parle de son livre Le meilleur café d'Amérique. On va marquer une première pause musicale avec Alain Bachung, Bijou Bijou.
Bijou Bijou, te réveille pas surtout. Je vais pas faire de bruit, juste un café, c'est tout. Je peux plus rester ici, je dormirai, je sais pas où. Oh, oh. Bijou, bijou, le temps ça pourrit tout. Les cheveux dans le lavabo, les mégots écrasés n'importe où. Puis tu prends ton bain avec de drôles de joujou. Oh, oh, oh. Bijou, bijou, y'a des feux rouges partout. Et au coin de la rue, l'armée du salut qui joue. À ma montre, y'a pas de chaîne. À mes cols de chemise, pas de baleine. Oh, oh, oh. Pense à tes rendez-vous. Rappeler le gynéco, passer à la banque, prendre des sous. Trouver quelqu'un d'autre, moi je mets les bouts. Oh, oh. Veille pas surtout. Je pourrais pas dire au revoir ce matin, j'ai pas le bon bout.
ce que t'as été belle quand tu te mettais à genoux.
Bijou, bijou d'Anna Bachung. François Moreau-Martinez, c'est un morceau qu'on retrouve au début de votre roman et à la fin du roman.
Ouais. En fait, j'étais un peu content de mon coup parce que, en gros, au-delà du fait que j'adore Bachung et que j'adore particulièrement ce morceau, un jour j'étais en reportage à Lisbonne et j'étais avec le groupe Phoenix. Et en gros, Branco me disait, bah voilà, nous quand on part en tournée aux États-Unis, on part, ils partent, ils font plusieurs mois là-bas, quoi. Enfin, je veux dire,
ils sont très connus aux États-Unis, ils ont énormément vendu.
Exactement, même plus là-bas qu'en France, oui. Enfin, pendant très longtemps. Et c'est vrai qu'eux, ils faisaient des très grandes salles, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est des arénas, c'est des grands lieux, c'est comme s'ils faisaient des Bercy tous les jours ici, quoi. Et le truc, c'est que. Il me disait, ouais, moi, je sais plus comment il me disait ça, mais il me disait, moi, les Américains, moi, en gros, ah, pardon, je redis bien les choses. Quand y a un concert, il y a souvent une sélection musicale en attendant, en fait, que le groupe arrive sur scène. Alors, le public ne sait pas trop d'où vient cette sélection, si c'est la salle qui choisit ou pas, et tout ça.
Ouais, c'est pour chauffer les enceintes
pour
un peu.
Pour chauffer les enceintes, ouais. et tout ça. Mais il se trouve qu'en fait... Alors je sais pas si c'est toujours le cas, mais en fait dans la plupart des cas que j'ai pu connaître, en fait c'était vraiment des sélections musicales qui sont faites par les groupes, quoi. Et eux, au milieu de chansons pop vraiment US, les B-52, des choses comme ça et tout, en gros eux ils ont glissé ce bijou d'Alain Bachung. Et Branco il m'a dit et là, je me revois encore le faire comme ça parce qu'il avait ce petit air comme ça vraiment satisfait en me disant c'est un sacré coup qu'on leur fait aux Américains quand on fait ça, quoi. Et j'ai adoré ça parce qu'il y avait ce truc cette fierté française, c'est-à-dire que c'est pas une démonstration de force, c'est tout en douceur, c'est-à-dire qu'en fait il va passer ce morceau comme ça à tous les Américains, eux ça va être anecdotique pour eux, mais lui il sait la force que ça représente, en fait, et il se satisfait de ça. Il n'a pas besoin d'être reconnu pour ça. Il n'a pas besoin que les Américains se disent ah, Branco, tu m'as fait des... Non, il est juste content de son coup, quoi. Et ce petit truc un peu feutré comme ça, j'ai adoré ça. Et c'est vrai que je m'en sers dans le bouquin là-dessus parce que c'est une petite anecdote comme ça dans le livre au début, et puis après, c'est vrai qu'à la fin. C'est ce petit twist. Je sais pas si tu. Moi, je peux raconter, hein, si tu veux. Moi, j'ai pas de. Donc, en gros, à la fin, je suis dans ce qui se passe. Mais tout c'est. Grosso modo, tout est vrai dans ce que je raconte dans ce livre. Et c'est vrai qu'il y avait un. J'étais dans un rad de Joshua Tree, en Californie, qui est plutôt une ville fréquentée par des démocrates. C'est plutôt assez anti-Trump et tout ça, quoi. Et en fait, finalement, et puis là, il y avait une groupe de gars qui avaient débarqué dans ce rad un peu bruyamment. Et c'était des. Je sais pas si d'où ils revenaient, quoi. Enfin, mais ils étaient tous vraiment très gonflés à bloc. Alors, il devait y avoir peut-être un truc. En tout cas, c'était une bande. C'était des Trumpistes qui étaient dans une sorte d'association Trumpiste, je sais pas trop quoi, enfin, et tout. Et en fait, ils étaient un peu grossier, un peu voilà, ils sont venus un peu briser le moment qui était très sympa là, j'étais avec ma compagne et tout, on était très bien. Et ils ont brisé un peu ce moment où on était cool, on était relax, ce moment un peu de félicité qu'il y avait à Joshua Tree à ce moment-là, quoi. Et en fait, on pouvait choisir la musique qu'on mettait dans les enceintes. Il n'y avait pas de jukebox, mais c'était via un iPad et tout. On pouvait choisir si, en fonction des tips qu'on donnait, quoi, et tout ça. Et c'est vrai qu'eux, ils mettaient YMCA à fond, tout le temps. En fait, ils ont mis YMCA en boucle. En fait, le truc est devenu l'hymne de Trump, où on le voit danser comme un idiot, là. Et puis, il y a eu ce moment, en fait, où moi, en fait, je suis allé, j'ai donné un plus gros tips. Et on m'a laissé prendre les commandes. Et j'ai mis bijou, en fait. Voilà. Et je me suis dit, ça, c'est un sacré coup que je leur fais aux Américains, quoi. Voilà.
Alors, votre livre touche par son honnêteté, il désarme par son dénuement, il est dépossédé de tout artifice et de toute pose. Vous avez été vacciné très tôt des mythes de la célébrité, des grandes renommées de leurs épopées.
Ouais, en fait, il y a un truc, c'est que... Alors moi, je pense que j'étais comme tout le monde, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu... pour moi, il y a eu des mythes, il y a eu des légendes, des héros absolus, des gens absolument qu'il fallait que je rencontre. Enfin, je veux dire, j'ai eu ce truc. Mais comme vous dites, très tôt, ça s'est dissipé. C'est-à-dire que j'ai très vite compris qu'il y avait quelque chose d'un peu mortifère à courir après des figures qu'on s'imagine être un peu figées. Entre guillemets, ce qui fait que moi j'ai vraiment ce truc où de toute façon je pense que je ferais pas enfin c'est pas à moi de dire si je suis un bon journaliste ou pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que je serais un plus mauvais journaliste si j'avais gardé cette image en tête des héros que je devais rencontrer pour le travail par ailleurs. Donc il fallait que je restitue quand même quelque chose de cette rencontre. Je pense que quand on rencontre des gens comme Nick Cave ou comme Damon Albarn ou comme, je sais pas, Duane Casablancas, tous ces gens-là, en fait, on est obligé de, à un moment donné, de Cat Power, qui était très impressionnante. Enfin, je veux dire, il y a à un moment donné, on est obligé de ramener un rapport humain, en fait. Hein. Donc oui, moi, très tôt, même à l'époque, quand j'étais plus jeune et que j'étais pas du tout dans professionnel et que j'étais à la fac et tout, je sentais qu'il y avait derrière cette idée de modèle et de héros, etc., quelque chose de mortifère un petit peu. Et alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir un peu à la réalité humide de la vie des gens, en fait. Enfin, la réalité. Voilà, je pense que tout le monde erre dans son clapier à un moment donné et revenir à ça, quoi. Ça veut pas dire. Enfin, réduire les gens à rien, hein, au contraire, hein, c'est juste trouver une autre vérité en fait en eux. Ça reste des gens en fait, d'un point de vue sociologique entre guillemets, qui ont besoin de, qui ont les mêmes nécessités que nous. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin de se mettre au travail, ils ont besoin d'enregistrer, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de faire un disque de merde parfois parce qu'en fait, ils ont un deal à conclure avec un label. Et je veux dire, en fait, la réalité, elle est beaucoup plus prosaïque que les grands mythes qu'on se raconte, quoi. Donc quelque part oui, en fait oui, c'est sûr que très tôt j'ai eu ce truc où je me suis dit qu'il y a, enfin, les mythes c'est bien, mais il faut que ça reste entre quelque chose de l'ordre de l'idéal type, mais il faut pas se leurrer, quoi, sur ce que c'est dans le fond, quoi. Voilà.
Et votre livre est rempli de portraits touchants, et ce sont jamais des héros, ce sont des gens de l'Amérique souvent perdus, ou en quête de quelque chose dont parfois ils ignorent ce que c'est.
Ouais. Bah, en fait, c'est des miroirs, hein, tous ces gens dans le livre. Hein. Enfin, je veux dire, je pense qu'il doit y avoir peut-être, même en les mettant en scène, eux, un côté égocentrique de ma part, parce que je pense que je cherche en eux les faiblesses et les désorientations qu'il y a en moi, j'imagine. J'imagine que comme il y a dans ce qui détruit les gens, je pense un peu de nous, au final. Je pense que c'est toujours un peu ça. Je pense qu'on a ce truc où quand on voit, il y a plusieurs réactions à avoir quand on voit des gens se détruire. Des gens qu'on a aimés, mais qu'on connaît pas forcément, mais parce qu'ils sont des artistes ou des choses comme ça, quand on les voit se détruire, quand on les voit mourir jeunes, en fait, on essaye de trouver, soit en fait, ça nous rassure de les laisser à cette place-là d'autodestruction, etc., parce qu'on se dit que ça nous rassure parce que c'est pas nous, on a une vie plus relaxe. Soit en fait, bah, on a peur de trouver en eux ce qui nous ronge un peu nous aussi, quoi. Et moi, je fais plutôt partie de cette catégorie-là des gens, quoi. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il y a ce truc où moi, il y a des personnages qui sont là-dedans, qui sont incongrus. J'avais rencontré un type à Hollywood Boulevard, et ça, c'est pareil, j'en parle. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un moment où j'étais allé à Los Angeles. Enfin, je suis allé plusieurs fois aux États-Unis, tout ça. Enfin, je raconte dans le livre, il y a plusieurs trucs et tout. Mais une fois où j'étais allé trois semaines, un mois, j'avais passé un petit mois là-bas d'ailleurs. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que je suis allé partout, mais je suis pas allé sur Hollywood Boulevard en fait. Et c'est alors que c'est un peu les destinations où les gens vont parce qu'il y a les étoiles, parce que ça. Hollywood Boulevard, c'est crado, c'est un peu badant, c'est pas exceptionnel. Enfin, c'est vraiment sans doute le truc le moins intéressant. Après, c'est toujours intéressant si on est dans une optique de reporter, même si on n'est pas, si on n'y va pas pour un reportage professionnel. C'est toujours intéressant de ce point de vue-là. Mais et donc je croise ce type en fait qui marche. Il marche à Los Angeles. Le type, c'est rare en fait finalement les gens à Los Angeles. Enfin, il y en a qui prennent les transports, mais ils vont au travail, et après ils repartent et tout ça. Mais en fait, lui, en fait, il s'était fait tirer son permis de conduire parce qu'il avait été topé en train de rouler, alcoolisé, tout ça. Donc il n'avait plus de permis. Mais du coup, il marchait quoi. Il marchait à Los Angeles quoi. Il faisait des choses bizarres en fait. Il aidait les gens à se garer en fait. Enfin, et ça, c'était un truc qui m'avait vraiment fait marrer. C'est-à-dire qu'il était là, il servait à rien en fait. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mec qui sert à rien. Et qui est là, qui gare et tout, et je pense qu'il espérait une petite pièce ou un truc comme ça. Mais c'était pas un SDF du tout, hein. Enfin, c'était un type qui, comme ça, en fait, il vivotait comme ça. Et puis, et j'ai croisé ce mec, en fait, qui avait une histoire complètement violente et tout. Alors après, cette histoire, elle est un peu composite aussi, parce qu'elle parle aussi d'autres gens, mais je veux dire, elle est. Il a grandi dans un univers sectaire avec un père violent, enfin toutes ces choses-là quoi. Et par contre, c'était un génie de la musique quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un guitariste incroyable et qui avait, je crois, il a fait des trucs avec John Frusciante. Je dis ça sous le contrôle de Fred qui a un t-shirt John Frusciante. Mais voilà quoi. Donc il y a un truc comme ça. Ouais, c'est des destins assez assez fou. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est de voir à quel point, en fait, les gens que j'ai rencontrés là-bas avaient une sorte de génie, quoi, entre eux. Et moi, il m'avait fait penser à un autre gars que j'avais rencontré à Austin, où le type, en fait, il nous avait filé sa guitare pour que mon pote joue, mon pote qui est français, joue un morceau. Et mon pote, il avait joué un Dylan, mais tout, enfin, un peu prostré sur lui-même, voilà, enfin, très intérieur et tout ça. Il a joué ce truc comme si c'était un moment de dénuement absolu. Et le mec qui nous hébergeait, qui s'appelait Dan, qui était un Californien qui était venu tenter sa chance à Austin, il a attrapé sa guitare, il a sorti un truc, mais je veux dire, c'était un showman, mais je veux dire, de haute volée, quoi. Enfin, c'était, alors que le gars, c'est juste un musicien amateur, quoi. Et quand je l'ai vu, je me disais, c'est le meilleur guitariste de tous les temps, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et en tout cas, il arrive à nous faire croire ça, quoi. Et il chantait à gorge déployée, enfin, c'était l'opposé total, quoi. Mais c'est pareil, et puis à Nashville, moi j'avais traîné un petit peu à Nashville, j'avais pu voir j'ai été là-bas avec des gens comme Jack White ou comme les Black Keys ou des choses comme ça, et en fait, pour espérer rentrer dans un studio à Nashville pour enregistrer de la musique, il faut être, c'est virtuose ne suffit pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tous les mecs qui sont dans tous les honky-tonk de Nashville sont des mecs qui sont 10 fois meilleurs que n'importe quel musicien en France, enfin... J'exagère sans doute, hein, mais qui ne font rien d'autre que ça en fait, parce qu'en fait ils sont pas assez bons pour faire de la musique avec dans les studios à Nashville. Ils sont pas assez bons pour ça. Il y a une rigueur à avoir là-bas, c'est vraiment métro boulot dodo quoi, enfin, et tout ça. Et ils sont pas voilà. Et ça, moi j'ai toujours été impressionné par ça, par le côté un peu sauvage, un peu de l'Amérique, c'est-à-dire en gros il y a une sorte de démerde punk quoi qu'il arrive, et en fait s'ils font le truc, ils le font à fond, et ça devient des génies quoi. Enfin, les musiciens américains que j'ai rencontrés sont tous, enfin, incroyablement forts, et c'est un détail pour eux quoi.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman, et on va marquer une seconde pause musicale. On va écouter un morceau justement de John Frusciante. Word out. John Frusciante qu'on vient d'écouter. Alors, François Moreau-Martinez ne veut pas répondre à la question de pourquoi on a choisi ce morceau, puisqu'il en parle très bien dans son livre. Alors, dans votre ouvrage, Le meilleur café d'Amérique, paru aux éditions du Gospel, il n'y a pas de transcendance dans votre livre. Il y a, si ce n'est celle extraordinaire des extraterrestres, ou celle plus commune de l'amour.
Ouais. Bah ouais, parce que, en fait, tant qu'on cherche toujours beaucoup de choses, la transcendance, c'est un truc, c'est moi, perso, c'est un truc qui m'échappe. Je crois que j'ai vraiment très peu de mots pour en parler correctement. J'ai parlé à des artistes qui, eux, en parlent vachement mieux que moi, et tout, mais je... Non, bah en fait, moi j'aime bien le... Moi, j'aime bien le banal, en fait. J'aime bien le quotidien banal, des choses. J'aime bien les interactions, en fait, qui ne sont pas forcément des interactions qui vont mener à des grandes révélations. Alors après, c'est juste peut-être parce que je n'ai pas envie de dévaloriser une grande révélation. Il y a peut-être des choses comme ça. Mais les extraterrestres, ouais, il y avait ce truc... ça a toujours été un truc qui m'a fasciné, moi, perso. Donc, J'ai toujours adoré les récits d'extraterrestres, tous ces trucs. Et puis, en fait, c'était un peu le cliché du livre, en fait, entre guillemets. Être aux États-Unis, faire un truc là-bas et parler d'extraterrestres, à un moment donné, c'est... Mais bon, là, c'est un petit peu, pour le coup, c'est un petit peu la partie du roman qui est la plus sujette à caution, on va dire. Mais effectivement, J'avais croisé dans un café à Topanga Canyon Peter Fonda, en fait, qui était là, et puis il avait vraiment une dégaine de gars un peu cool et tout ça, vraiment sympa. Et c'est vrai que, je sais pas, j'ai eu envie de créer un petit espace pour me dire qu'en fait Peter Fonda, peut-être que, en gros, qu'est-ce qu'il fait de sa vie, quoi, enfin, et tout, et finalement pourquoi pas être pourquoi pas vouloir créer une grande anthologie des apparitions extraterrestres. Voilà, ça c'est un peu la partie romancée. Je crois pas que Peter Fonda ait fait ça dans sa vie, mais bon, en tout cas ça part d'une vraie rencontre. Et puis en fait, bah, y a cette idée de l'ailleurs, en fait il y a cette idée comme ça, mais toujours avec une patine un peu naïve, en fait, sur le rapport extraterrestre. Moi c'est ça qui me branchait, quoi. Donc ouais, il y a des petits... Il y a un moment donné, une apparition extraterrestre et tout, mais en fait, je crois qu'elle concourt à cette apparition à l'ambiance paranoïaque un peu qui traverse, j'imagine, un petit peu le livre et tout, ce sentiment d'être hanté ou de marcher dans un espace hanté, etc. Donc cette idée d'être surveillé, peut-être, cette idée qu'il y a des fantômes qui se penchent sur notre épaule constamment. Je pense que c'est une part importante du livre. Et je crois que là, c'était un peu la respiration ces extraterrestres, parce que c'est un peu rigolo de voir des extraterrestres apparaître. Mais ouais, il y a un peu ça. Et puis l'amour, oui, parce que l'amour, bah, enfin, c'est toujours, c'est hyper banal, hein, mais je pense, comme tous les tubes du top 50, à un moment donné, je pense que l'amour peut sauver. Je crois qu'il y a un truc un peu comme ça. Je pense qu'en fait il y a dans le fait de rencontrer quelqu'un qui vous aime brutalement et qui vous regarde avec des yeux de vérité, quelque chose, et qui vous aime de façon indiscriminée aussi, pour le pire et pour le meilleur, sans jugement, mais juste à vous prendre tel quel, bah, quelque chose comme ça de très puissant, en fait, hein. C'est un peu le dernier. J'aime pas trop l'idée que ce soit un refuge, parce que j'aime pas trop. Enfin, je trouve que c'est plus fort que ça, quoi. Mais voilà, quoi. C'est quand même un truc qui peut sauver une vie, je pense, ouais.
Vous écrivez ailleurs dans le livre que la beauté ne nous sauvera pas. Donc, c'est-à-dire que l'amour est plus important que l'art.
Ouais, bah, parce qu'en fait, il y a des choses. Je sais plus à quel moment je le dis, parce que là, ça me rappelle que je l'ai écrit, ça. Mais je sais plus dans quel contexte je l'ai écrit.
C'est au début, ouais. Faudra que je revienne un peu en arrière, mais ouais. Je vais formuler autrement ma question. Est-ce qu'à un moment, la musique vous a sauvé la vie?
Ah ouais, bah la musique, c'est le... Ouais, la musique, c'est quelque chose qui m'a... La musique, c'est l'espace où, en fait, la musique et la littérature aussi, hein, mais je veux dire, c'est l'espace où en fait, le beau comme le pas beau, en fait, est mis dans un écrin qui nous fait dire qu'on n'est pas seul, en fait. Enfin, je pense que c'est, il y a quelque chose comme ça, exprimer quelque chose, que ce soit terrible ou que ce soit. Que ce soit de l'amour ou que ce soit de la perte ou que ce soit de... Enfin, n'importe quoi, quand c'est mis en musique et quand c'est avec une sincérité, là on a écouté John Frusciante, en fait on peut pas ne pas être désarmé face à cette interprétation. En fait, là il y a ces tripes sur le sol, quoi. Enfin, je veux dire, on marche dedans, on patauge dedans. Enfin, c'est... Il y a quelque chose d'ultra puissant. Donc oui, en fait, la musique m'a sauvé, mais la musique elle est pas toujours belle pour autant. Et la beauté plastique des choses ne nous sauvera pas parce qu'en fait elles fond au soleil.
Jared Sweeley des Black Lips vous déclarera, lui: je suis très religieux, mais je pense que tout le propos de la religion ne devrait pas être la crainte mais la joie. Il m'arrive de me demander si j'agis correctement, j'imagine que le rock a été ma bouée de sauvetage.
En fait, cette rencontre elle m'a vraiment marqué parce qu'en fait, à 2 semaines d'intervalle, je rencontre Cat Power. Et 2 semaines plus tard, je rencontre Jared des Black Lips. Et donc, les deux, je les rencontre à Paris. Et les deux m'ont dit des choses qui m'ont vraiment marqué. Les deux ont grandi dans un univers qui est similaire, parce qu'ils ont grandi du côté d'Atlanta, donc dans le sud, et dans des univers très croyants. Mais très croyants, c'est-à-dire que Cat Power me disait que c'était les églises un peu blanches, donc les baptistes, etc., c'était un peu austère, quoi. Et elle m'avait dit une phrase qui, moi, me traverse encore de part en part, parce que le contexte, en fait, était avec sa clope, on était à l'hôtel Coast, elle me tenait la main quand elle parlait à ce moment-là, enfin, c'était assez intense comme moment, et elle m'a dit: ils ont voulu m'enseigner la crainte de Dieu, ils ne m'ont donné que la peur des hommes, ils ne m'ont transmis que la peur des hommes. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire après un tel moment, en fait, comme ça. Et 2 semaines plus tard, je rencontre donc Jared en studio. Il finit l'album des Black Lips, donc il y avait tous les Black Lips, etc. Il y avait Soul des Fight White qui étaient à la production. Et en fait, là, Jared, la veille de ma venue, avait bu. Et ça faisait un an qu'il n'avait pas bu. Enfin, 364 jours qu'il n'avait pas bu, et le 365e, il a bu. il y a quelque chose qui m'a frappé là-dedans. Il s'est fait tirer son portable à ce moment-là, enfin bref. Il était hyper mal, quoi. Et puis il devait mettre en boîte les paroles d'une chanson qui s'appelait Marfa Myth, ou un truc comme ça. À l'époque, en tout cas, ça s'appelait comme ça. Je sais pas si aujourd'hui dans l'album ça s'appelle comme ça, je sais même plus si elle est dans l'album. Où en fait il parlait de ces moments où il s'est reconstruit en allant bâtir des maisons à Marfa au Texas. Donc enfin, c'est un truc. Et c'est là où en fait il m'a parlé. Il a parlé. Je pense qu'il était propice à s'épancher un petit peu sur justement qu'est-ce que c'est que le sentiment de culpabilité, et pourquoi on grandit avec ça. Et lui, je pense qu'en fait il grandit avec ça parce qu'il vient de cet espace-là où en fait. Il m'a dit: le sud, c'est un endroit où on te parle de l'apocalypse tout le temps, et l'apocalypse à cause de toi, parce que tu ne marches pas dans les pas de Dieu, etc., etc. Et lui, en fait, il a tenu ce discours, mais c'était d'autant plus touchant, parce que ce qu'il y a, c'est que c'est tellement intériorisé, cette histoire d'apocalypse, que même si lui, en fait, il avait envie de dire le sujet de c'est l'amour, et ben en fait, il est quand même hanté par l'apocalypse, quoi. Enfin, il est foutu, quoi.
En fait, entre guillemets, la damnation.
Il y a une damnation comme ça qui est pas de l'œuvre de Dieu, quoi. C'est l'œuvre des hommes, en fait. Et par ailleurs, souvent des hommes blancs, en fait, en tout cas en ce qui les concerne. Donc, il y avait un truc comme ça qui, moi, m'avait, et cette concomitance des rencontres si intenses, qui sont rares, je pense, de vivre des moments comme ça à 2 semaines d'intervalle en plus dans le métier de journaliste, où en fait on est souvent des fois pris dans des cirques promo, des choses comme ça. Il y avait des moments de dénuement comme ça qui sont assez frappants et qui faisaient en plus un peu comme dans les films d'horreur, quand on se rend compte qu'on voit que la personne qu'on tient en face de nous, c'est nous, mais à 90 ans en train de mourir, ou je sais pas. Enfin, il y a un truc comme ça de pareil, encore une fois, de projection qui faisait vraiment écho à toutes mes angoisses existentielles à moi, quoi, et qui m'ont poussé à écrire ce livre notamment, quoi.
À 14 ans, en 2001, vous avez été hospitalisé en psychiatrie, avec que des filles, hein, parce que c'est principalement les premières concernées par ces internements. Vous y avez découvert avec elle Birthday Party, donc Nick Cave, Fugazi, Gainsbourg, bon, y a pire comme initiation. Ça a été un épisode important dans votre vie. Et en fait, à un moment, vous vous demandez si c'est vraiment votre place et si vous ne volez pas la place de quelqu'un qui souffre plus que vous.
Ouais, parce qu'en fait, il faut, pour le contexte, en fait, c'est, ce centre hospitalier, c'est un centre hospitalier à Bordeaux, je ne sais pas s'il existe encore. Donc, en fait, c'était dans un petit parc, un hôpital, j'essaie de me rappeler un peu les lieux, mais en fait, à tous les étages, il y avait les gens qui souffraient de... Il y avait, je crois, au troisième, il y avait les anorexiques. Et nous, en fait, au quatrième, on était les suicidaires, quoi. Ceux qui se sont réveillés, ils croyaient qu'ils se réveillaient au paradis, mais en fait ils se sont réveillés dans une chambre d'hôpital, quoi, en gros. Donc il y avait tous ces gens qui avaient pris soit des médocs, soit qui s'étaient ouvert les veines, soit qui voilà, quoi. Et moi, ce qui m'a marqué, à l'époque je m'en rendais pas trop compte, mais en grandissant, je me suis dit, en fait, j'étais le seul mec, on était 16, il y avait 15 filles, un garçon, quoi. Je veux dire, en fait, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal que la population carcérale soit majorité masculine, la population dans les hôpitaux psychiatriques, en tout cas des jeunes suicidaires soient féminines. Il y a quelque chose qui roule pas. Donc il y a quelque chose d'interroger, oui, effectivement, ce que c'est qu'être un homme. Je pense que c'est urgent, même encore aujourd'hui, de réfléchir à ça. Mais en fait, j'avais un peu l'impression d'être un imposteur. En fait, en gros... moi, contrairement à toutes ces filles, en fait, je n'avais pas fait de tentative de suicide, en fait. J'avais pas essayé, mais je pense que c'est mon comportement. En tout cas, on m'a enfermé par prévention, j'ai l'impression. En tout cas, en fait, j'étais suivi, etc. Je pense qu'ils ont senti qu'on est arrivé à un point où, en fait, il y avait sans doute un coup à jouer en me mettant là-bas, quoi, parce qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi. Et c'est vrai que là-bas, finalement, c'était un concentré de socialisation. Enfin, c'était hyper fort et hyper intense. J'étais 3 mois là-dedans. Et c'est vrai que j'ai rencontré des filles un peu plus âgées que moi. Et notamment une, en fait, qui m'a fait écouter des trucs de rock que j'avais jamais écouté avant. Donc ça, c'était assez cool. Et puis oui, effectivement, j'ai découvert des nouveaux rites et des thèmes et des choses comme ça, des termes que j'avais jamais entendu parler. TS, je sais pas ce que ça voulait dire, mais eux ils disaient TS comme
tentative de suicide, donc.
Tentative de suicide, voilà. Et eux ils disaient ça normal, quoi. C'est-à-dire qu'en fait ils étaient initiés, en fait. Et donc en gros il y avait tout un truc comme ça derrière cette initiation. Et c'est vrai que du coup il y avait tout un j'ai découvert une nouvelle culture adepte de gens qui en fait au lieu de se passer des joints, des choses comme ça, se passer des lames de rasoir, etc. Enfin, il y a tout un rite et tout ça, machin comme ça, tout un mode de vie au final. Donc j'en parle avec le sourire, mais c'est tragique aussi, hein. Et oui, effectivement, je m'étais dit que peut-être, je me suis dit, mais à la fois, je vois ce qui me rongeait, les questions existentielles que j'avais, mais je voyais ces gens qui étaient dans un état de souffrance qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer, en fait. Et je m'étais dit, mais on n'est que 16, on peut pas être que 16 dans le monde. Enfin, je veux dire, et moi, en fait, j'ai pris peut-être la place de quelqu'un, moi j'aurais peut-être pu m'en sortir autrement, en fait. Et j'avais peut-être pas besoin d'être là. Il y a peut-être un gamin qui attendait sur la liste d'attente de rentrer là et qui était passé à l'acte entre-temps, quoi. Enfin, j'en sais rien. Donc oui, j'avais eu un sentiment de culpabilité. Mais en fait, c'était... Je pense que c'est des... Je crois que un des psys m'avait dit un truc du genre... Je pense que si tu te poses la question, c'est que t'es éveillé sur ça, quoi. Enfin, je veux dire, et que peut-être que c'était la chance de ta vie. Et... Donc oui, il y a quand même des fois un peu aussi cette... J'ai ce truc un peu de me dire... c'est une bonne raison de continuer à vivre quand même. Enfin, je veux dire, d'avoir eu la chance d'avoir un... qu'on prenne soin de moi, à un moment donné, ou qu'on ait l'envie d'en prendre soin de moi, en tout cas.
Merci beaucoup, François Moreau-Martinez, d'être venu nous parler de votre livre « Le meilleur café d'Amérique » paru aux éditions de Gospel. La semaine prochaine, on se retrouve pour un livre qui s'appelle « Le lien et la grâce » de Philippe Comard. Merci beaucoup à la technique, à René Crancy et à Didier pour la régie. Et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup pour l'invite.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.